Alors, il y a quelques 50 ans, le sociologue de la littérature Robert Ascarpi notait que sur 10 titres publiés au cours d'une année, un seul était encore disponible à la fin de cette année, et qu'après 10 ans, un seul d'entre eux l'était encore, c'est-à-dire au bout de 10 ans, un seul ouvrage sur 100 avait survécu et restait disponible sur le marché. Il n'y a aucune raison de croire que la situation se soit améliorée depuis. C'est dire d'entrée de jeu que l'oubli est normal en littérature et qu'il n'est pas un phénomène récent. Toutefois, cette référence au marché de la littérature ne renvoie qu'à un épiphénomène, c'est-à-dire à un constat de surface, car la quantité d'ouvrages oubliés ne peut être réduite à un événement immédiat. Disons pour faire vite que l'oubli est systémique. Alors, j'ai intitulé ma conférence « La vie littéraire contre le canon » pour désigner au départ les deux conceptions majeures de la littérature qui s'affrontent dans le champ épistémologique des études littéraires, et je ne prétends pas réduire le phénomène de l'oubli et de la marginalisation à ces deux pôles. Je les crois cependant structurants. Je procéderai à l'envers et commencerai par remonter aux sources de la canonisation, qui crée le corpus littéraire de référence, c'est-à-dire le corpus qui est le plus largement reconnu et partagé, et du même coup, le type d'oubli qu'il engendre. Dans le cours de ma carrière et au fondement de mes recherches, se trouve la volonté de déconstruire ce canon pour retrouver en deçà du processus de sélection qu'il engendre, ce que j'ai appelé ici la vie littéraire. À l'époque où j'avais votre âge, j'ai fait mes classes de chercheuse comme professionnelle de recherche au Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec, projet alors sous la direction de Maurice Lemire, repris depuis par Aurélien Boivin, et qui avait pour objectif de recenser l'ensemble des œuvres littéraires publiées au Québec. Par la suite, nous avons développé le projet de la vie littéraire au Québec qui est la mise en récit des données recueillies dans la préparation du dictionnaire. Nous avons publié jusqu'à présent 6 volumes, dont deux sont encore en préparation. Ces ouvrages et des recherches qui les ont rendus possibles sont en continuité l'une de l'autre et partagent les mêmes fondements épistémologiques, lesquels, pour dire vite, consistent à remettre en question le canon de la littérature québécoise existante alors, canon que l'on peut reconstituer, pour dire vite, à partir du manuel d'histoire littéraire de Camille Roy sur lequel portait mon mémoire de maîtrise, pour revenir aux sources et relire l'ensemble de la production. Le projet est ambitieux et avec le temps, il a bien fallu concéder qu'il était quelque part utopique. Néanmoins, il a permis une relecture du corpus littéraire québécois qui, débordant des textes reconnus comme canoniques, permet du même coup de déborder les cadres de l'histoire conventionnelle, de retrouver, de relire des œuvres négligées, de mieux comprendre les conditions générales dans lesquelles émerge l'œuvre reconnue, réinterprétée chaque fois en fonction de ce que nous avons baptisé, à la suite de Pierre Bourdieu et de Jean-Paul Sartre, l'espace des possibles, d'un lieu et d'un temps donné. Nous avons réinventé l'histoire de la littérature québécoise, provoqué nos collègues et les avons invités à nous répondre, à nous contredire, à nous réinventer. Nous n'avons pas toujours obtenu les résultats escomptés, mais nous avons fait école, ici et ailleurs. C'est donc de ce point de vue qui n'est certainement pas le seul possible que j'aborderai la question des oubliés de la littérature, car nous en avons relu plusieurs comme une condition élémentaire au renouvellement de notre savoir qui passe, en ce qui me concerne, par cette réécriture de l'histoire littéraire du Québec. Il faut en effet de nouvelles données pour développer de nouveaux savoirs. Et j'ajouterai sur un plan plus fin que je me suis donné pour mandat dans ma carrière de relire ce qui peut être relu. On ne peut pas tout relire, les oubliés sont trop nombreux, néanmoins on peut essayer. Et je me dis toujours qu'au moins quelqu'un aura réévalué le statut de ses œuvres mineures ou carrément oubliées. Quelqu'un leur aura donné une deuxième chance. Qui sont ces oubliés et comment les a-t-on oubliés? Commençons par la deuxième question qui nous permettra d'identifier plus aisément la réponse à la première. Je vais me concentrer ici sur les œuvres en langue française, mais le phénomène n'est pas spécifique à cette langue. Toutes les grandes littératures européennes se sont déployées sur le même modèle et selon les mêmes principes. Européennes, j'ai dit. Les autres sont soit coloniales, soit orientales, soit autochtones et répondent à des critères distincts. Je ne peux pas tout résoudre. Qu'on garde en mémoire seulement que ce qu'on appelle la mondialisation, qui est l'exposition des normes occidentales aux cultures des autres continents, mais que certains et certaines préfèrent appeler l'ouverture au monde, ce dont je ne discuterai pas pour l'instant, crée des distorsions dans la reconnaissance des pratiques linguistiques à projet esthétique, ce que devrait être la littérature. La langue, l'écriture, l'imprimerie et l'édition n'ont pas toujours été partagées par l'ensemble des peuples et des communautés. Elles restent cependant les prémices de l'existence littéraire. Il fut un temps où la notion de littérature n'existait pas, mais où l'on écrivait néanmoins et où déjà existaient des séries de modèles, des sortes de palmarès, le déploiement d'une technique de la conservation et de la mise en ordre du passé. De cette époque datent les institutions, les ouvrages pédagogiques qui énoncent des grands principes de la rhétorique et offre des modèles à imiter. Le canon, déjà connu dans l'Antiquité grecque, est d'abord un instrument de mesure créé pour les beaux-arts, un système à carreaux qui permet de fixer les mensurations idéales d'un objet ou du corps humain et qui sert à identifier la beauté idéale. Quand on dit d'un garçon ou d'une fille qui sont canons, c'est à ce type de mesure qu'on réfère. Cicéron, Quintilien jusqu'à Montaigne ont excellé dans ce genre, proposant dans leur plan d'études un canon de modèle d'éloquence. Là était leur préoccupation première, à lire et à imiter. D'autres développent par la suite l'idée de biographie, ou plutôt, si l'on veut, celle des collections de biographies, dont l'exemple le plus célèbre est resté celui des vies parallèles de Plutarque. Tous ces ouvrages, et là je couvre rapidement plusieurs siècles, présentent deux traits communs. Un, leur fonction didactique, car elles sont destinées à l'école par la sélection d'ouvrages représentatifs érigés en modèle. Et deux, leur fonction mémorielle, qui conserve la mémoire des œuvres et les regroupe en catégories où les œuvres retenues deviennent exemplaires. C'est de cette manière que nous sommes parvenus les grandes œuvres de l'Antiquité, de Homère à Pétrone, dont nous n'avons d'ailleurs pas toujours les textes. Rien ne nous dit qu'il n'y en ait pas eu d'autres, mais nous n'en savons rien et n'en saurons jamais rien. De cette époque jusqu'au 18e siècle, d'autres modèles se sont imposés, les bibliothèques, les magasins, à l'origine du magazine, des collections de portraits, pensons au caractère de La Bruyère, voire l'Académie française elle-même, qui avait précisément pour objet de déployer une poétique de la littérature à côté de son dictionnaire, qui devait fixer une fois pour toutes les règles de l'écriture et qui marque du même coup la reconnaissance sociale de la figure de l'écrivain. Cette préhistoire, puis proto-histoire de la littérature, parce que la notion de littérature n'existe toujours pas, poursuivent des objectifs qui sont étroitement liés aux besoins des intellectuels de ces époques. Elles insèrent déjà des modalités de classement et de sélection qui témoignent à mesure de leur extension d'une société où la vie intellectuelle est en voie de spécialisation et d'une société où la population lettrée qui s'étend elle aussi a besoin de guides et de conseils. On accorde à Voltaire d'avoir produit le premier récit historique cohérent. Son histoire, le siècle de Louis XIV, découpe des règnes plutôt que des siècles, ce que les successeurs préféreront, et établit comme clé de voûte le siècle de Louis XIV lui-même, idée qui va perdurer dans toutes les histoires littéraires jusqu'à nos jours. Il construit le modèle d'une histoire en trois temps, la naissance, l'apogée, la décadence. C'est ce qui suppose que ce qui précède cette époque idéale, celle de Louis XIV, soit considéré comme une époque d'émergence ou de naissance, ce qui engendre un discours sur le primitif. Elle suppose également que ce qui suit la perfection soit considéré comme de la décadence ou du dépérissement. De ce point de vue, le 18e siècle, donc qui suit le siècle de Louis XIV, a dégénéré dans la philosophie, a engendré les troubles de la Révolution française et n'a produit aucun poète de mérite, dit-on. A-t-on récemment remis en question cette affirmation qui fait de Marie-Joseph Chénier le seul poète du 18e siècle? Les a-t-on vraiment comptés? L'histoire littéraire telle qu'on la connaît aujourd'hui naît toutefois au 19e siècle. En tant que discours narratif, elle est étroitement liée à la naissance de la société politique moderne fondée sur le concept d'État-nation, catégorie fondatrice de l'histoire littéraire. Par conséquent, dès ses origines, celle-ci n'existera que dans le cadre national. On retrouve cette idée posée dans « De la littérature » de Madame de Staël, qui écrit que chaque groupe national possède une littérature qui lui est propre et qui se déduit de son tempérament collectif. Le devoir des écrivains est de rester fidèle à ce type national dont on trouve les meilleurs modèles dans la poésie populaire traditionnelle. Dans un univers jusque-là marqué par la permanence, l'identité, la règle et l'imitation, l'histoire littéraire introduit les particularismes. Il y a des nations, des pratiques, des traditions, des époques. De même, et dès le début, l'histoire littéraire est structurée par les genres littéraires, comme l'avait été l'Académie française à sa fondation. Le modèle ici est celui de l'histoire naturelle, de Bossuet à Linné, qui distingue dans l'univers des espèces, des classes et des genres. Cependant, seuls les genres nobles sont représentés à l'Académie française et les écrivains qui y sont élus le sont pour la valeur exemplaire de leurs écrits. Cette hiérarchie des genres littéraires introduit du même coup une logique qui hiérarchise les œuvres et les écrits. L'épopée, l'histoire, la poésie, la tragédie sont des genres nobles. Le reste, incluant la comédie et surtout le roman, renvoie des genres mineurs. Le classement des auteurs et des œuvres suivra. Il y aura bien sûr des révisions nombreuses qui réhabiliteront à une certaine époque Molière ou Marivaux comme auteurs dramatiques comiques, mais pas pour leurs pièces trop comiques, pas pour leurs farces. Et les grands courants du 19e siècle, le romantisme, le réalisme, le naturalisme. Mais pour l'instant, le roman du 17e, le roman à la poésie du 18e siècle, relevant de genres mineurs à leur époque, reste encore à découvrir. Au cours du 19e siècle, l'histoire littéraire va se faire pédagogie, voire didactique. En ce sens, elle va devoir se raccorder à des programmes de formation scolaire et s'organiser selon des niveaux d'enseignement, donc se déployer dans une didactique spécifique. Il n'y a pas si longtemps, le cours classique, ici ou en France, se divisait la littérature en siècles, et chaque siècle correspondait à une année scolaire, en commençant par le Moyen-Âge en première secondaire. On se demande pourquoi c'était pas le contraire, mais en tout cas. Jusqu'au 19e siècle en cinquième secondaire. L'année scolaire est courte et la pédagogie demande un récit simplement organisé. Ainsi, pour le 17e siècle, donc troisième secondaire, on aura par exemple centré la didactique sur la poésie dramatique, la comédie et la tragédie. On n'aura pas la farce ou l'opéra comique, rien sur le roman par ailleurs essentiellement déjà féminin. Et sur les ouvrages didactiques, donc sur la poésie dramatique et sur les ouvrages didactiques de Boileau à La Bruyère. Pour le 18e siècle, l'histoire reste centrée sur les philosophes, Voltaire, Rousseau, Diderot, mais pour leurs contes et œuvres narratives, pas sur les ouvrages de vraie philosophie ou sur le théâtre. Et on ne s'en rend jamais à la Révolution française. Le 19e siècle est organisé en séquences, romantisme, réalisme, naturalisme, réparti sur une demi-douzaine d'auteurs majeurs, Hugo, Lamartine, Musset, Balzac, Flaubert, Zola et parfois Maupassant. Du même coup tendent à disparaître des manuels les genres brefs, le conte et la nouvelle, les genres anciens, l'éloquence ou le discours, et les genres en voie de se doter de leur propre système de légitimation, l'histoire, les sciences, la philosophie. Tout ce qui entoure le centre est composé des autres genres qui seront donc considérés comme mineurs. L'histoire littéraire comme récit, comme classement, est donc d'abord la conception d'un objet didactique. Elle s'impose comme un moyen de transmettre aux jeunes générations les valeurs de l'ancienne. Il se crée ainsi une logique horizontale, la division nationale, qui concerne les contemporains, et une logique verticale, qui concerne les compatriotes de tous les temps. C'est d'ailleurs cet impératif pédagogique qui va constamment nuire au développement de l'histoire littéraire en tant que discipline scientifique, le premier prenant invariablement le pas sur le second. La fonction didactique de l'histoire littéraire va ainsi créer d'autres marges, en particulier quand elle soulève la question de la morale. Peut-on vraiment enseigner l'œuvre du Marquis de Sade aux élèves de quatrième secondaire? Les œuvres dites libertines vont ainsi rejoindre les corpus oubliés, en même temps que les œuvres représentatives des populations négligées par l'enseignement secondaire. Notons ainsi la littérature féminine depuis le Moyen-Âge, mais le cas particulièrement aigu à ce qui concerne les romans, les littératures intimes, les écrits féministes, la littérature sentimentale et la littérature lesbienne au grand complet, la littérature homosexuelle aussi, mais on fait toujours quelques exceptions, comme Marcel Proust ou Oscar Wilde. Notons aussi le cas de la littérature ouvrière, ou encore plus le cas de la littérature prolétarienne ou anarchiste, œuvre destinée à la formation et au divertissement des classes populaires. Notons enfin le cas de la littérature de jeunesse, écrite d'ailleurs par des femmes, sans compter toutes les formes orales traditionnelles. Y a-t-il une littérature orale? Cette histoire n'est pas terminée, puisque encore en 1981, ça fait peut-être 40 ans, mais ça n'a pas beaucoup bougé depuis, Anne-Marie Thiès et Hélène Mathieu notaient que l'agrégation, vous savez le concours d'agrégation en France, ne tolérait point les polygraphes et ne connaît plus Racine que pour le modèle classique de ses tragédies et Voltaire pour ses articles de l'encyclopédie ou ses contes philosophiques. On notera ici que je ne parle que de littérature en langue française. La conception même de la littérature française est exclusive. Même chose pour l'anglaise, l'espagnol ou l'allemande. Quand on songe à la définition de l'histoire de la littérature qui repose sur la sélection des grandes œuvres et néglige tout le reste, ou même à l'histoire littéraire comme l'ensemble des écrits d'une même langue. L'histoire littéraire opère une identification entre la nation et la langue, comme si celle-ci venait naturellement. On oublie que les programmes de formation littéraire sont d'abord et avant tout des programmes de formation à la maîtrise de la langue, une maîtrise avancée de la langue. Les deux questions demeurent. Existe-t-il une littérature française en langue autre que le français, le breton, l'occitan par exemple? Existe-t-il une littérature en langue française qui ne soit pas hexagonale, disons belge, suisse, québécoise, maghrébine, africaine, libanaise? J'en pense et j'en synthétise. Sans parler du cas de la récupération, c'est-à-dire des grands auteurs naturalisés, de Jean-Jacques Rousseau à Aimé Césaire, sans que jamais la différence nationale, voire coloniale, ne soit abordée de front. Il advient un moment quand même où les études littéraires prennent certaines distances avec ces déterminations didactiques et pédagogiques. La distinction entre histoire littéraire et histoire de la littérature, par exemple, introduite au 19e siècle par l'historien Désiré Nisard, est constamment réactualisée depuis, marque bien cette rupture. Selon Nisard, l'histoire littéraire commence avec la nation, avec sa langue, le jour où le premier ouvrage de la langue française a été écrit, c'est-à-dire quelque part au Moyen-Âge. Elle embrasse tout ce qui était écrit dans un besoin de perpétuité et de tradition. En revanche, l'histoire de la littérature commence au moment où l'art paraît et où l'esprit français exprime des idées générales dans un langage définitif, c'est-à-dire à la Renaissance. Là, je cite toujours Nisard. Par art, selon lui, il faut entendre l'expression de vérité générale dans un langage parfait. Et Nisard ne se gênera jamais pour préciser qu'il ne fréquente que les chefs-d'œuvre et leurs alentours. Alors, l'histoire de la littérature suppose ainsi une transcendance, alors que l'histoire littéraire est par définition contingente. D'une certaine manière, l'histoire de la littérature marque un repli de l'histoire sur la tradition qui suppose un présent éternel, l'identification du même à différentes époques. L'histoire littéraire suppose au contraire une connaissance historique qui témoigne de la distance. Elle engage la reconnaissance de l'autre dans sa différence et son étrangeté. Cette distinction entre l'histoire littéraire et l'histoire de la littérature, quoique les titres depuis le 20e siècle soient constamment brouillés et qu'on ne saisit pas toujours la distinction par l'appellation elle-même, toujours cette distinction entre l'histoire littéraire et l'histoire de la littérature a été exploitée d'une manière ou d'une autre par la plupart des historiens de la littérature, y compris par les premiers historiens modernes du Québec que sont Camille Leroy et Émile Chartier, qui postuleront l'impossibilité d'écrire ici une véritable histoire de la littérature québécoise, proposant néanmoins une histoire littéraire, ou qui la feront commencer plus tardivement autour de la Révolution tranquille, comme le fait Gilles Marcotte dans Une littérature qui se fait. L'histoire de la littérature est donc une histoire monumentale, c'est-à-dire une histoire des monuments de la littérature. Et la littérature québécoise, comme celle des femmes et des autochtones, est, semble-t-il, condamnée à n'exister qu'au présent. Dans les années 1950 et 1960, la première tâche que s'est donnée, ce qu'on a appelé la nouvelle critique, celle initiée par Roland Barthes, par exemple, a été de remettre en question les catégories de l'histoire littéraire. Pensons à ces textes comme « La mort de l'auteur », de l'œuvre au texte, et de remettre en question la détermination pédagogique de l'histoire littéraire, pensons à la réflexion sur un manuel. On le verra d'ailleurs travailler par la suite, Barthes, c'est-à-dire au développement de l'analyse structurale du récit qui sert de tremplin à une approche structuraliste de la littérature. Ce que Barthes reproche à l'histoire littéraire, c'est de n'être que l'accumulation ou la juxtaposition de tous les littérateurs importants retenus par les siècles, donc une galerie de portraits. Ce que demande la nouvelle critique, c'est d'abord de libérer l'histoire littéraire de cette logique pédagogique pour mettre au centre de la critique et de la recherche littéraire la question des formes. Et les études littéraires contemporaines sont les héritières de cette critique qui fut à son époque assez féroce et au cours des années 60-70 et même au-delà débouchera sur une conception simple et même simpliste, une opposition simple et même simpliste entre l'histoire et la théorie. Force est de constater que cette critique dite nouvelle n'a cependant pas remis en question les acquis et les oublis générée par l'histoire littéraire plus traditionnelle. C'est donc le contre-pied de ces conceptions de la littérature que mes travaux ont jusqu'à présent visé à prendre. Dans mon mémoire de maîtrise, je visais à déconstruire le discours de l'histoire littéraire, à saisir ce qui distinguait le discours critique et le discours historique dans le manuel d'histoire de la littérature canadienne française, comme on disait à l'époque, de Camille Leroy, fondateur de la discipline au Québec. J'y mettais au jour les méthodes et les catégories d'analyse déjà déployées par les manuels français les plus en vue à l'époque, de Lagarde et Michard ou le Castex et Surer, du nom de leurs auteurs. L'idée était ici de saisir le discours de l'histoire littéraire comme une prise de position et de mettre en doute sa qualité de ce savoir absolu. Je rejoignais en cela les principaux critiques de l'enseignement d'une littérature au corpus figé et présélectionné en repérant les principes qui avaient présidé à cette opération de sélection. On sait peut-être que je suis aussi une spécialiste de littérature dramatique. Je l'étais déjà à l'époque. Et j'ai poursuivi cette analyse en mettant au jour les contradictions de Camille Leroy, qui inséra les pièces de théâtre dans le chapitre sur la poésie, pour ensuite affirmer l'inexistence de la littérature dramatique dans la littérature canadienne. Ne rions pas trop vite. C'est quand même moins d'affirmer que toutes les mères des grands écrivains étaient folles, comme l'ont fait les Français de Lagarde et Michard pendant toute la deuxième moitié du 20e siècle. On les lirait. Après la déconstruction du corpus, il faut le relire. Au Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec, nous poursuivions l'objectif de traiter la littérature savante comme un objet patrimonial. Il nous semblait important de rendre au peuple, pour reprendre la devise des archives de folklore fondées par Luc Lacourcière, il nous semblait important de rendre au peuple une partie des biens qu'il nous avait légués, en reconstituant comme une collection la bibliographie intégrale de la littérature québécoise et en proposant la relecture de chacune des œuvres. L'ambition était de classer ces œuvres dans l'ordre alphabétique de leur titre, et non selon le nom de leurs auteurs, de sorte que nous pouvions rendre compte des œuvres majeures des auteurs mineurs, normalement oubliés par les dictionnaires d'auteurs, mais aussi des œuvres mineures des auteurs majeurs, tout aussi oubliées que les précédentes. L'ordre alphabétique offre en outre l'avantage de dissoudre les esthétiques et les thèmes communs, ainsi que la stricte hiérarchie des genres littéraires, de sorte que les chroniques, les textes dramatiques, les mélanges, les récits brefs, contes et nouvelles ont pu être intégrés au corpus. Avec le temps, à mesure que les tomes s'empilaient, il y en a 9 jusqu'à présent, il a cependant fallu devenir un peu plus sélectif. On a beau réduire les périodes historiques de 100 tomes premier volume à 15 pour le dernier, il n'est plus possible de rendre compte de cette manière de la production littéraire de plus en plus importante dans son ensemble. Les derniers tomes sont plus sélectifs que les premiers par conséquent. De même, les articles du DOLC, si vous les avez déjà consultés, vous l'aurez remarqué, n'ont pas tous la même longueur. Ils n'ont pas tous la même importance. L'espace distingue les œuvres les plus importantes, qui sont celles dont la critique a jusqu'à présent beaucoup parlé, des œuvres moins essentielles qui ont été laissées dans l'ombre par la critique. À l'œil, le lecteur, la lectrice comprennent bien que l'importance d'une œuvre littéraire se mesure bien plus à la quantité de lectures qu'elle a générées, au nombre de pages qui lui ont été consacrées par la critique, qu'à une quelconque valeur intrinsèque. Autrement dit, plus on a parlé de vous, plus on va parler de vous. Le programme de recherche sur la vie littéraire découle du DOLC. Nous voulions aller plus loin que ce recensement et recomposer une histoire littéraire qui rende compte des conditions et des contextes qui ont permis à ces œuvres d'apparaître. Je n'aurai pas le temps ici de détailler tous les enjeux méthodologiques du projet, mais nous avons renoué avec deux des grandes catégories de l'histoire littéraire. D'abord, la périodisation, qui est le découpage dans le temps, marqueur de rupture et de grandes mutations. Cette périodisation, nous l'avons voulu spécifique aux enjeux de la littérature, bien distincte des enjeux sociopolitiques de l'histoire nationale, qui était la division par siècle. Ce qui ne signifie pas que celle-ci, donc les enjeux politiques et l'histoire nationale, ne soient pas parfois croisés. Ensuite, la question des genres littéraires qui structurent l'ouvrage. L'intérêt de revenir aux genres littéraires était lié au fait que nous ne pourrions faire aussi bien que le DOLQ pour retrouver les œuvres oubliées et que nous ne voulions pas revenir à cette catégorie canonique qui était celle de l'auteur, entendant ici l'auteur comme définissant l'unité de l'œuvre. Le genre nous permettait de rendre compte de pratiques concrètes, de pratiques au présent, par opposition aux œuvres déjà reconnues, de rendre compte du travail sur le matériau linguistique, sur l'imaginaire, sur la forme, au-delà de toute donnée biographique. Les auteurs eux-mêmes ont été rassemblés dans un chapitre qui offre un portrait sociologique, un portrait d'ensemble, un portrait de groupe, qui rencontre des trajectoires professionnelles exemplaires. Dans la vie littéraire, comme dans le dictionnaire des œuvres littéraires, nous avons cherché à reconstituer l'esprit du temps et traiter le passé comme une altérité. La notion de littérature qui préside à la sélection des œuvres et des genres dont nous parlons et celle qui prévaut à l'époque de leur production. Ainsi, peut-être qu'une œuvre ne nous parle plus à nous, mais qui sommes-nous pour nier l'importance qu'elle a pu avoir pour ses contemporains? Nous sommes également dotés de balises éthiques et politiques. Il nous faut toujours vérifier où sont les femmes, les autrices, les éditrices, les lectrices, vérifier le rôle des régions par rapport à la métropole, vérifier la présence des voyageurs, migrants et autochtones, gardant cependant en mémoire que la littérature dont nous parlons est une littérature savante en français. C'est un de mes grands regrets que de n'avoir pu rendre compte adéquatement de la littérature québécoise de langue anglaise. Nos budgets ne nous permettaient pas de commencer à zéro cette recherche que les anglophones n'ont eux-mêmes jamais menée, et notre compétence était sur ce point assez limitée. Être bilingue ne suffit pas à faire de nous des spécialistes de la littérature en langue anglaise. Ce sont là nos limites, mais nous sommes destinés à être dépassés, du moins je l'espère, et nous aurons semé de quoi faire mieux. De toutes ces entreprises, j'ai appris un certain nombre de choses. Parmi celles-ci, et qu'il est impossible de rendre compte de tout et de ne rien oublier. Il y a des œuvres qui vont rester oubliées, selon les principes énoncés par Robert Ascarpi tout à l'heure. Ce n'est pas tellement l'œuvre singulière qui mérite de sortir de l'oubli, mais ce qu'elle représente. Je serai claire, si j'ai passé toute ma carrière à réécrire plusieurs fois, et chaque fois différemment, l'histoire littéraire du Québec, c'est que je crois que sincèrement que, faute d'histoire, la littérature québécoise sombrera dans l'oubli. Et que je le crains. La littérature québécoise reste une littérature de spécialistes, lue par des spécialistes et largement ignorée du grand public. Elle ne se suffit pas à elle-même, contrairement à la littérature américaine qui repose sur une institution faible, mais sur un marché puissant, ou à la littérature française, qui repose exactement sur l'inverse. Il s'agit donc d'une position éthique, comme l'est ma position sur la littérature des femmes qui ne sera jamais lue tant que nous ne la raconterons pas en tant que sujet, comme l'est aussi ma position sur la littérature populaire, qui demande à être évaluée comme étant le miroir de cette littérature savante qui nous réunit. Toutefois, on ne peut pas se contenter d'imposer à ces corpus oubliés, méconnus ou négligés des catégories traditionnelles qui ont servi à distinguer les œuvres canoniques. Il faut revoir toutes les catégories, repenser la structure et la hiérarchie des genres littéraires, la nature du champ littéraire, les rapports entre la langue et l'écriture, entre l'oral et l'écrit, entre la culture savante et la culture populaire, les genres brefs et les genres étendus, réévaluer le livre comme porteur principal de l'œuvre, pourquoi pas le récital, le spectacle, le périodique. Et, pour parvenir à imposer des nouvelles valeurs, assurer cette opération de lecture et de relecture. La mémoire littéraire, écrivait Daniel Chartier, se construit par accumulation de lectures critiques, par paliers de synthèses successifs. De là la nécessité d'ailleurs de s'interroger sur la littérature contemporaine, laisser des traces, laisser des lectures contemporaines qui permettront aux historiens, dans l'avenir, de sortir ces œuvres de l'oubli. Ainsi se construit la mémoire, et c'est bien faute de ces discours critiques que s'est imposé l'oubli. Et je terminerai en rappelant la mémoire d'Alain Viala, qui écrivait, et je le cite, « L'histoire littéraire posant la question de la valeur ne posera donc pas de valeur a priori et travaillera sur les variations des conceptions de la littérature. Elle n'exclura pas davantage, a priori, aucun texte, mais se demandera comment sont advenues les classifications qui ont décidé que tel texte était littéraire et tel autre pas, et comment les hiérarchies entre les œuvres et les auteurs regardés comme littéraires se sont établies. » Je vous remercie.